Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Irène Théry.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes sociologue du droit, ça fait 20 ans que vous travaillez sur la notion de consentement et aujourd'hui vous publiez Moi aussi au Seuil, c'est sous-titré La nouvelle civilité sexuelle, un livre très intéressant sur les conséquences du mouvement MeToo alors que chaque semaine nous apporte son lot de nouvelles accusations concernant alors d'anciennes stars de la télévision comme Patrick Poivre d'Arvor ou des dirigeants politiques comme Adrien Quaternins ou Julien Bayou et que tout ça se mélange. J'ai mis sur le même plan viol, agression sexuelle, harcèlement, gifle ou violence psychologique maintenant. Est-ce que ça n'est pas un problème ?
Oui, c'est un problème de la façon dont les médias, d'ailleurs, mettent en scène ce qui se passe. C'est vrai que tout n'est pas à mettre sur le même plan. Et d'ailleurs, mon travail consiste à prendre distance par rapport à justement la façon dont tout est mêlé et d'essayer de le proportionner un peu les différents sujets.
Parce qu'on a l'impression qu'une une affaire succède à une autre et tout ça donne l'impression que ce sont les hommes les coupables en général, comme si c'était dans leur gène, ce qui n'est pas du tout votre point à vous.
Bien sûr que non. D'abord, il ne faut jamais oublier que l'immense majorité des hommes n'ont jamais ni agressé ni violé personne. Donc, il y a une vraie question sur les violences masculines, mais cette question ne consiste pas à voir en tout homme un violeur en puissance. Il y a une autre façon de voir les choses, si vous voulez, c'est de dire nous sommes héritiers d'une certaine règle du jeu sexuel dans laquelle il y avait une dissymétrie très forte entre une sexualité masculine qu'on admettait volontiers conquérante, voire de prédation, et une sexualité féminine que j'appelle de citadelle, qui avait charge de se défendre. Et cette dissymétrie, aujourd'hui, on mesure à quel point elle a pu laisser la voie libre à tout un ensemble d'agressions. Et donc, MeToo, c'est d'abord ça. C'est d'abord un mouvement qui a mis au jour récit après récit, un énorme continent de violences sexuelles qui étaient cachées, faites aux femmes et aux enfants principalement. Mais il y a un deuxième côté à MeToo, et ça, on ne le dit pas suffisamment, c'est ça le sens de ce titre, La nouvelle civilité sexuelle. Ça n'est pas simplement de s'occuper des délits, des crimes, et de dire la honte doit changer de camp, c'est un aspect très important. Mais il y a un autre côté qui aujourd'hui, enfin, apparaît au jour en France, mais qu'on a longtemps pas voulu voir, qui est ce que j'appelle l'appel à une nouvelle civilité sexuelle ordinaire, pour la vie ordinaire, qui ne concerne pas des crimes et des délits forcément, et donc et dont le mouvement s'est emparé sur les t-shirts des manifestantes américaines, par exemple, en barrant le vieux mot d'ordre « protégez vos filles » et en le remplaçant par « éduquez vos garçons ». Et cette question d'éducation n'est pas forcément une question pénale, bien entendu.
On va revenir sur la nouvelle civilité sexuelle dont vous parlez dans votre livre, Irène Théry. Mais MeToo a aussi mis à jour des accusations qu'on a du mal à gérer parce qu'elles sont portées dans l'espace public, que souvent ça a trait à des affaires qui sont prescrites. Et résultat, on a vu cette semaine Elisabeth Badinter déclarer qu'on livrait des hommes à la vindicte générale sans passer par la justice. Elle sous-entendait par ailleurs que le courage, ça n'était pas tellement de parler 15 ans après, mais c'était de porter plainte.
Alors déjà, ne faisons pas des confusions entre tous les sujets. Que des affaires soient prescrites n'empêche pas des victimes de s'exprimer. Et d'ailleurs, je souligne toujours que la plupart des affaires qui concernent les violences sexuelles dans l'Église catholique sont prescrites. Et personne n'a mis en cause, si vous voulez, la valeur de cette parole collective qui a été celle des hommes qui ont été abusés dans le passé. Donc, cette question de la prescription n'empêche pas l'expression et publique et à la société de voir comment elle va arriver à trouver des solutions à ces questions. Ça me paraît complètement différent, ce qui se passe autour de l'affaire PPDA, de ce qui se passe autour de l'affaire Bayou, par exemple. Donc c'est là où le travail consiste à faire des distinctions. Dans un cas, si vous voulez, on a des mises en cause quand même sur des questions de viol qui vont très loin, et on a surtout une parole collective de dizaines de femmes qui inventent, en fait, qui créent de nouvelles formes de preuves. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui a été, en fait, d'emblée le cœur de l'affaire Weinstein il y a 5 ans, qui a lancé MeToo et qui arrive aujourd'hui en France. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette affaire, mais disons que on perçoit à peu près ces enjeux. Une parole collective qui change la question des preuves et qui se heurte en partie à la prescription. Tout autre chose est l'affaire Bayou, bien entendu.
L'affaire Bayou, il faut le rappeler, c'est le patron d'Europe Écologie Les Verts qui a été espionné. On l'a appris ce matin en lisant le Parisien, qui a été espionné pendant 3 ans par un collectif féministe qui s'est érigé en tribunal de l'Inquisition, disent certains, au sein même du parti. Et tout cela et donne à la fin le fait que sa rivale au sein du parti, Sandrine Rousseau, finit par l'accuser de violence psychologique dont on ne connaît pas la nature exacte. Lui-même, j'ai l'impression, n'en sait rien.
Alors, comme toujours, il faut prendre beaucoup de distance, voir tout ça avec flegme, et par exemple ne pas encore une fois tout mélanger. Par exemple, j'ai été quand même assez étonnée que le garde des Sceaux, face à cette affaire, dise « il est temps de siffler la fin de la récré ». D'abord, c'est une façon de parler qui est assez cavalière, assez méprisante, condescendante, on va dire, par rapport à la façon dont des femmes aujourd'hui mettent en question justement des mœurs machistes, par exemple au sein des partis politiques. Et moi, je pense que là, il discrédite en fait les comités de veille contre les violences sexistes et sexuelles qui existent maintenant dans de très nombreux organismes, dans les partis politiques, mais aussi dans les entreprises depuis au moins 10 ans, dans les universités, etc. Le problème, donc, c'est de ne pas mélanger. Je pense que ces comités sont utiles justement parce que tout ne relève pas de la justice. Hein, quelquefois, c'est des questions de mœurs, c'est des questions de manière de se comporter, etc. Et quelquefois, on va découvrir qu'il faut porter plainte, mais pas toujours. Et le problème particulier de la commission contre les violences sexistes et sexuelles d'Europe Écologie Les Verts, qui n'a, semble-t-il, hein, parce que moi je n'ai que la presse pour m'informer, semble-t-il, n'a pas fonctionné selon les règles élémentaires de tout comité, c'est-à-dire l'impartialité et le fait de se mettre loin du politique. Il semble qu'ils aient constitué cette commission en nommant ses membres selon la proportion des courants politiques. Ils ont d'emblée politisé le sujet, les règles de discrétion, c'est-à-dire que tout a fuité partout, alors que normalement ces commissions doivent respecter au contraire une grande confidentialité dans leurs enquêtes, et enfin pas de contradictoire. Alors le contradictoire, le fait que quand on est accusé, on soit au courant et on puisse s'exprimer, ça paraît quand même élémentaire dans la vie démocratique.
On fait une pause, Irène Théry, on se retrouve tout de suite après.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Irène Théry, qui est sociologue du droit et qui publie « Moi aussi ». Alors Irène, la révolution MeToo, dont on voit les effets se manifester tous les jours, c'est à votre avis une révolution de la parole, comme on l'a dit, ou c'est une révolution de l'écoute, l'opinion étant maintenant prête à entendre ?
Je pense que c'est les deux. C'est certainement pour les victimes, le fait que ce mouvement soit très collectif permet à beaucoup de celles et aussi ceux, parce qu'il y a maintenant de plus en plus d'hommes qui parlent aussi, qui étaient restés enfermés dans la honte, qui n'arrivaient pas à avoir le courage aussi de s'exprimer, etc. Donc le font davantage. Mais bien sûr que c'est aussi une révolution de l'écoute, que si on parle, c'est parce qu'on pense qu'on a une chance d'être entendu quand on s'exprime. Et c'est vrai que MeToo, de ce point de vue-là, a changé la donne. Je trouve qu'on n'est plus dans la même situation qu'il y a 5 ans, au moment où il y avait d'emblée tout de suite une sorte de méfiance, voire de discrédit à l'égard de la parole des victimes. On n'en est plus là, même si il ne faut pas s'imaginer que c'est fini. L'affaire PPDA le montre, leur témoignage montre que quand des femmes s'expriment sur des violences vécues adultes, elles ne sont pas écoutées comme le sont des femmes ou des hommes qui parlent sur des violences vécues enfants, par exemple.
Les réponses à chaque fois diffèrent. Hein. On peut voter des lois. Par exemple, ça a été le cas, une des conséquences du livre de Vanessa Springora sur Gabriel oui. Matzneff ou de celui de Camille Kouchner contre Olivier Duhamel. Ça a été la loi de 2021 fixant la majorité sexuelle à 15 ans. Il n'y avait pas de majorité sexuelle en France auparavant. Est-ce que c'est un progrès à votre avis ?
Oui. En fait, il y avait une majorité sexuelle. Ce qui a été apporté par cette loi, c'est l'idée que sur la question centrale aujourd'hui qui organise la différence entre ce que notre société accepte, qu'elle permet, qu'elle valorise ou de ce qu'elle interdit, qui est la question du consentement, ce que cette loi a apporté, c'est l'idée que quand il y a des certains rapports d'âge, eh bien, il y a une sorte de non-consentement statutaire. On ne va pas regarder le détail de ce qui s'est passé dans telle situation à tel moment. On va dire, une personne de moins de 15 ans ne consent jamais statutairement. C'est pas besoin d'aller plus loin. Dès qu'un majeur de plus de 5 ans de plus qu'elle a une relation sexuelle avec elle, c'est une agression sexuelle ou un viol automatiquement. Donc ça, c'est un énorme changement. Hein. Ça veut dire que on ne passe plus aujourd'hui par d'autres, on ne passe plus par d'autres références comme on l'a fait pendant des siècles, par exemple, pour savoir si les gens sont mariés ou pas mariés, pour savoir si une relation sexuelle est autorisée ou interdite. Mais cette question des âges est devenue une question centrale.
Yann Théry, vous le racontez dans votre livre, la civilité sexuelle a connu plusieurs révolutions chez nous au cours de l'histoire. Oui. Alors en quoi celle que vous préconisez dans votre essai, est-elle nouvelle et adaptée à notre époque ?
Alors, ce n'est pas celle que je préconise. Hein. C'est ça, quoi que je ne cache pas que j'y adhère, parce que les autres formes de civilité sexuelle, c'est-à-dire tout simplement, quelle est la règle du jeu ? Quel est le système d'attente ? Qu'est-ce qui fait que telle forme de sexualité est acceptée par la société ou au contraire rejetée, disqualifiée, voire condamnée, punie, etc. On a toujours eu une civilité sexuelle qui était organisée selon un principe de complémentarité hiérarchique des sexes et depuis les années 70 se met en place progressivement une nouvelle civilité sexuelle dont je donne la description dans mon livre. Donc ce qui est nouveau, effectivement, c'est que désormais, ce qui est le plus important, c'est que une relation soit consentie. Et le mouvement MeToo met l'accent sur le fait que très souvent, il y a eu des consentements extorqués, en particulier en situation d'inégalité, de hiérarchie, d'emprise, etc.
Mais il y a d'autres choses aussi qui caractérisent en fait cette nouvelle sexualité ou cette nouvelle civilité sexuelle. Le couple est un duo aujourd'hui. Il n'y a pas de sexualité oui. honorable et d'autres qui soient honteuses. Et il y a une véritable oui. mixité, par exemple. Tout ça, c'est assez nouveau.
Voilà, c'est-à-dire que ce que j'essaye de donner, c'est un tableau d'ensemble de ce qui a changé entre, on va dire, les années 50-60 encore, et ce qui commence à changer à partir de ce qu'on a appelé la libération sexuelle des années 70. Moi, je n'oppose pas, si vous voulez, les féministes de la génération des années 70 qui, justement, se sont battus pour faire reconnaître le droit des femmes au désir, à la sexualité, à l'avortement, à la contraception, évidemment, et les nouvelles générations. Je ne crois pas qu'il y avait des gentilles féministes avant et des méchantes aujourd'hui. Je pense qu'il y a une continuité entre ce qui a été entamé dans les années 70 et ce qui se passe aujourd'hui, mais qu'il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que les féministes de ma génération avaient certes critiquer les anciennes façons de voir, mais n'avait pas énoncé assez clairement comment dans une société où, par exemple, aujourd'hui, plus un métier, plus une fonction n'est considérée comme inaccessible aux femmes, ben, quelle est la règle du jeu ordinaire ? Voilà. Et c'est ça qui me paraît nouveau et qu'il faut prendre avec beaucoup de soin parce que, effectivement, si on ne voit pas les deux côtés, il y a un risque que on considère que chaque situation met une femme en situation d'être agressée ou violée, chaque situation met un homme en situation d'être accusé d'être un violeur, et on est dans la logique de l'interdit, du soupçon permanent, etc. Il faut arriver, au contraire, à mettre en place cette civilité sexuelle selon les normes qui sont les normes des sociétés démocratiques, bien entendu, c'est-à-dire de respect de la vie privée, de liberté, etc. Et je pense qu'il n'y a rien d'impossible à cela.
Merci Irène Théry. Votre livre s'intitule « Moi aussi » vient de paraître au Seuil. On se retrouve juste après une pause avec le comédien Jean-Paul Rouve.